Vous écoutez Vox, le podcast du Labex EFL. Je suis Maxime et voici le 22e épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le monde passionnant du langage et de la parole. Bienvenue dans Vox, le podcast qui vous parle de linguistique. Apprendre à parler est un processus fabuleux et passionnant. Passer du son à la parole structurée est un défi cognitif, social et articulatoire qui mobilise pleinement les enfants dès leur plus jeune âge. Dans ce processus, l'adulte joue un rôle central. Il permet en effet de guider, corriger et inspirer l'enfant qui se familiarise avec la langue. C'est en questionnant ces interactions clés entre l'enfant et l'adulte que notre invité du jour nous aide à comprendre ce qui se joue vraiment dans la parole naissante. Mettons-nous autour du micro pour en parler et mieux percevoir ce que parler veut dire. Le lien dans l'acquisition du langage, c'est le programme de Vox, épisode 22. Pour parler de tout ça avec nous, je suis heureux d'accueillir Sarah Thévenny, docteur en sciences du langage, attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'université Sorbonne Nouvelle, en grammaire du français et acquisition du langage notamment. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Vous êtes une toute jeune docteur depuis un petit peu plus d'un an et vous venez de réaliser votre thèse sur un sujet presque de santé publique, à savoir l'acquisition du langage chez les enfants atteints de surdité. Un travail réalisé sous la direction d'Anne Salazar-Horvig et Maria Candéa, que les auditeurs de Vox connaissent bien ici, du laboratoire Clestia. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi a consisté votre travail de thèse ?
Oui, tout à fait. J'ai travaillé pendant 4 ans et demi sur l'acquisition du langage chez des enfants atteints de surdité moyenne. Donc c'est un degré de surdité particulière puisque on peut être un petit peu sourd, c'est ce qui arrive quand on vieillit, on perd un peu d'audition et puis on peut ne plus entendre du tout. Et donc il y a des enfants qui naissent avec ces pertes diverses selon le degré de perte, il va y avoir un impact sur le langage oral différent. Moi, je me suis intéressée donc sur les surdités entre 40 et 70 décibels de perte, ce qui fait que les enfants n'entendent plus la voix parler. Ils vont, pour ceux qui ont autour de 40 décibels de perte, ils vont entendre la voix parler comme si on chuchotait extrêmement bas, mais ils vont quand même avoir une perception sans appareil de la voix crier. Cette perception résiduelle, ça leur permet d'avoir conscience encore qu'on communique avec le langage et donc de rentrer dans le langage oral naturellement, avant même l'appareillage. Donc on va quand même essayer de les appareiller pour faciliter leur entrée dans le langage. Et c'est généralement des appareils auditifs en contour de l'oreille, donc ce qu'on propose généralement aux personnes vieillissantes, pas l'implant cochléaire qui va venir se poser sur le nerf auditif. Donc j'ai regardé comment ils apprenaient à parler entre 3 et 6 ans en les enregistrant 3 fois par an, tous les 6 mois grosso modo. Et je regardais plus particulièrement comment ils apprenaient les pronoms, les déterminants, les prépositions et les auxiliaires, donc ce qu'on appelle les morphèmes grammaticaux libres, parce que ces morphèmes grammaticaux libres, ils sont placés avant les mots lexicaux. Et en français, on a tendance à accentuer plus ces mots lexicaux parce qu'ils se trouvent en fin de syntagme. Alors que les pronoms et les déterminants sont préposés aux mots lexicaux et donc sont dans des places qui sont inaccentuées. S'ils sont inaccentués, ça veut dire qu'ils sont moins saillants perceptivement. Et donc là, on va avoir une double complexité. Une complexité perceptive parce qu'ils sont moins saillants, et une complexité fonctionnelle, puisque ce sont des mots qui sont grammaticaux, donc qui ne vont pas pouvoir être montrés aux enfants. Il faut en faire l'expérience de leur fonctionnement pour comprendre leur utilité et savoir les utiliser.
Et alors justement, qu'est-ce que vous avez mis en évidence pendant ce travail de thèse ? Est-ce que vous avez pu mettre en valeur certaines notions qui peuvent aider les enfants atteints de surdité à entrer tout de même dans le langage ?
Alors, donc, c'est des enfants qui rentrent dans le langage naturellement. Le problème, c'est qu'ils vont avoir des retards et ils vont avoir des difficultés qui vont persister, qui vont pouvoir gêner leur scolarité par la suite. Ce que mon étude a mis en évidence, c'est qu'en effet, ces formes, parce qu'elles sont moins saillantes, elles sont plus complexes. Et quand en plus on va rajouter des difficultés phonologiques, par exemple les chuintantes, ce, che, ze, je sont extrêmement compliqués à percevoir pour les enfants sourds, toutes surdités confondues, parce que les appareils auditifs ne récupèrent pas les fréquences hautes, or les chuintantes mobilisent des fréquences qui sont très hautes. Donc les sons sont écrasés par les appareils. Et du coup, l'enfant ne va pas entendre je, le pronom, aussi facilement qu'un enfant qui n'est pas sourd. Donc la distinction entre je et ze va être très difficile à faire. Le pronom je est maîtrisé beaucoup plus tard que le lexème je chez les enfants. Et d'une façon générale, ce qui montre bien que ce n'est pas juste une question de perception. Pardon. Le fait qu'il y a un décalage comme ça entre les phonèmes, la production des phonèmes dans les morphèmes lexicaux et la production des phonèmes dans les morphèmes grammaticaux, ça montre que la morphologie a un impact sur l'acquisition du mot. Parmi les morphèmes grammaticaux libres que j'ai pu analyser, on va voir qu'il y a des différences aussi. Les pronoms sont plus complexes à acquérir, et en particulier le pronom première personne, donc je, puisqu'il a plusieurs types de difficultés. Mais les pronoms sont plus complexes, par exemple, que les prépositions. Et donc, à phonème égal, ils vont apparaître d'abord dans les lexèmes, puis dans les prépositions, puis dans les pronoms.
Question peut-être un petit peu plus personnelle, mais qu'est-ce qui vous pousse à vous intéresser à ce sujet-là en particulier? Pourquoi un intérêt pour l'acquisition du langage chez les enfants atteints de surdité?
C'est un parcours d'études diverses. Moi, pendant ma licence, je m'étais déjà intéressée au monde de la surdité, mais plutôt au monde de la langue des signes française, où je prenais des cours du soir à côté de ma licence. Et donc, en arrivant en master, j'étais déjà sensibilisée à ces problématiques liées au monde de la surdité. Et puis, j'ai rencontré, enfin, j'ai rencontré l'acquisition, parce que jusque-là, je faisais pas d'acquisition du langage. Et en particulier les cours de Madame Tiffany Bertin, qui est maître de conférence à Paris 3, qui travaillait, elle, sur les morphèmes grammaticaux, et en particulier sur leur acquisition par des enfants typiques, en sachant que déjà, ces morphèmes grammaticaux libres, chez les enfants typiques, ils vont connaître une acquisition qui est un petit peu différente, de par leur complexité fonctionnelle et de par leur complexité perceptive. Donc, dans un premier temps, les enfants typiques ne font pas la différence entre une syllabe du mot et un déterminant. Donc les mots bisyllabiques et les mots monosyllabiques avec un déterminant sont vécus de la même façon par les enfants. Et puis au fur et à mesure, il va apprendre à les détacher du lexème et puis il va acquérir la fonction par exemple de spécifieur pour le déterminant. Et donc dès le master, je me suis posé la question de si on rajoute une difficulté, qui est une difficulté vraiment perceptive, qu'est-ce que ça donne dans ce petit monde qui est déjà un petit peu fragile? Et en master, j'avais proposé de suivre des enfants déjà. Que j'ai suivi pendant 1 an et demi, et puis j'ai fait mon mémoire dessus, ce qui m'a permis d'obtenir un contrat doctoral.
Je le disais en introduction, vous êtes une toute jeune docteure, mais vous donnez aussi déjà des cours aux étudiants en sciences du langage à la Sorbonne Nouvelle, notamment ceux qui se destinent à devenir professeurs des écoles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu rapidement ce que vous transmettez dans vos cours, sur quoi vous enseignez?
Je leur enseigne comment les enfants vont apprendre à parler, puisque le langage apparaît comme un point clé de l'école. Il faut avoir un certain niveau de langage pour pouvoir comprendre ce que dit l'enseignant, pour pouvoir comprendre les consignes. Et ce niveau de langage, c'est pas, enfin, C'est pas seulement un niveau de lexique, il ne faut pas que l'enfant ait beaucoup de lexique, il faut aussi qu'il ait une syntaxe qui soit stable, qui soit structurée. Il va falloir qu'il comprenne un certain nombre d'implicites, parce qu'il y a beaucoup d'implicites à l'école. Donc je leur apprends déjà comment un enfant passe de la naissance et des cris, des vocalisations qui vont avec le fait d'avoir un appareil phonatoire, jusqu'à la stabilisation d'un système. Linguistique, d'un système langagier structuré, et puis comment ce système langagier il va s'affiner pour sous l'influence des adultes de par les reformulations, les répétitions des adultes pour permettre à l'enfant d'avoir des compétences qui sont plus élaborées que juste mettre un déterminant devant un nom, par exemple. Je leur enseigne aussi comment le langage oral va servir de base au langage écrit. Donc, un enfant ne va pas pouvoir apprendre à lire si ce qu'on lui présente, même s'il savait le décoder, il ne le comprendrait pas. Donc, il y a tous ces phénomènes de compréhension, de comment on travaille la syntaxe de l'écrit qui est légèrement différente de ce qu'on va pouvoir trouver à l'oral, comment on va pousser l'enfant a progressé petit à petit parce qu'on ne peut pas présenter à l'enfant des phrases comme Proust les aurait écrites en espérant qu'il les comprenne, même si on les dit à l'oral. Donc il va falloir établir une progression et je les fais réfléchir aux critères selon lesquels on va établir cette progression. Et puis après, on voit ensemble tous les phénomènes de codage et décodage, donc comment les enfants apprennent à prendre conscience que la langue est créée et formée par des sons, que ces sons peuvent être représentés par des signes graphiques. Et donc là, on est vraiment dans les premiers pas vers l'écrit.
Avec justement un focus très intéressant sur la façon dont l'adulte, dans une position de pédagogue, se place vis-à-vis d'un enfant pour l'aider dans son apprentissage de l'écrit, une façon de lier linguistique et pédagogie en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces travaux en particulier?
Oui, donc c'est des travaux qui ont été beaucoup développés par Madame Lantin, qui a créé l'association Las Forêles. Et aujourd'hui, c'est cette association qui participe activement à la formation, en particulier de professeurs des écoles, pour faire travailler, pour mettre en place des ateliers de langage. Et donc, moi, c'est sur les travaux de cette association, dont fait partie Madame Bertin, dont je parlais plus tôt. Que je m'appuie pour mes cours. Donc le principe, c'est de dire que l'enfant apprend donc en interaction, en parlant avec l'adulte, à construire des phrases et des sens plus complexes. Dans un premier temps, le langage de l'enfant, il est extrêmement contextualisé, c'est-à-dire que l'enfant va pouvoir parler de ce qu'il voit, de ce dont il a l'expérience, et donc de ce qui l'entoure dans un contexte proche. Au fur et à mesure qu'il grandit, et parce que l'adulte va l'accompagner pour parler de ça, il va pouvoir parler de choses qui lui sont arrivées, qui vont lui arriver, de choses qui pourraient arriver, et donc à se décentrer de cet ici et maintenant. Donc ça, déjà, ça nécessite de conceptualiser. Et cette conceptualisation, elle se fait parce que l'adulte lui explique, donc parce qu'il l'amène à conceptualiser ce genre de choses, et parce que donc progressivement, il arrive à établir des liens entre les éléments, des liens qui sont de plus en plus concrets et ça, de complexes, pardon. Et donc ça va se retranscrire sur la syntaxe. Par exemple, les causes à effet, ça va être noté syntaxiquement. L'enfant va dire, je prends un parapluie parce qu'il pleut. C'est noter une forme de cause à effet. Et donc pour pouvoir dire ça, il va falloir le conceptualiser. C'est parce que l'adulte lui explique et c'est parce que l'adulte reformule ce que l'enfant essaye de dire, qui va compléter ce que l'enfant essaye de dire, que l'enfant va apprendre progressivement. Donc ça se voit sur les structures de type cause à effet. Ça se voit aussi sur l'explicitation. Et cette explicitation, elle va être nécessaire pour l'écrit, puisque on ne va pas forcément expliciter beaucoup dans le langage oral spontané, celui qui entoure l'enfant, donc le langage du quotidien, parce qu'on parle dans un contexte extrêmement fort. Mais l'enfant, quand il va devoir apprendre à écrire, il va devoir établir des liens entre des mots qui sont explicites, parce que le langage écrit se décontextualise. Donc tout d'un coup, on va devoir passer de elle, avec un déictique qui montre la personne dont on parle, à la dame qui habite à côté de chez moi, la voisine, etc., etc. Des choses qui sont plus complexes parce qu'il faut être plus explicite. Ça, c'est pareil, c'est par les reformulations de l'adulte, parce que l'adulte demande à l'enfant d'être plus explicite, que l'enfant va apprendre à le faire. Donc le but, c'est de prendre conscience pour mes étudiants des stratégies que beaucoup d'adultes vont adopter naturellement avec les enfants. Naturellement, quand un enfant dit quelque chose qui n'est pas clair, on va essayer de reformuler ce qu'il dit pour être sûr qu'on a compris. Mais quand on a un but pédagogique derrière, il va falloir prendre conscience de ces phénomènes-là pour les appliquer plus systématiquement, pour les appliquer plus particulièrement quand on sait que l'enfant va avoir du mal, pour savoir quand est-ce que ça va servir à l'enfant, quand est-ce que l'enfant va pouvoir s'en emparer, et donc pour être précis dans son accompagnement. Et donc c'est sur ça que je fais travailler mes étudiants.
On le voit, vous parlez de conceptualisation. Moi, je trouve qu'il y a un concept très fort, justement, qui revient dans vos travaux, que ce soit de thèse ou ce que vous enseignez actuellement à vos étudiants. Ce concept, c'est celui de lien, qu'il soit auditif, visuel, gestuel. Est-ce que vous pensez que la linguistique est une science du lien?
Si ce n'est pas une science du lien, c'est une science où tout est lié. Tous les éléments, tous les domaines qu'on s'amuse à séparer en tant que linguiste pour faire des focus sur certains phénomènes, tout ça participe à une structure globale, et c'est particulièrement vrai dans l'acquisition. Si, quand on regarde comment le langage d'un enfant se développe, généralement on voit quelque chose émerger, donc faire un premier point, et il va falloir lier ce point à d'autres points pour faire émerger des concepts. Par exemple, un enfant, un jour, va comprendre qu'il y a du passé simple. En tout cas, qu'un verbe particulier peut avoir une forme de passé simple. Évidemment, il ne se dit pas, tiens, c'est du passé simple. Il apprend juste une nouvelle forme de ce verbe. Du genre, il marcha. Et donc cette émergence, elle va être d'abord seule, et puis un jour, elle va se lier à un autre verbe où il va essayer de créer une autre forme sur un autre verbe. Donc il va étendre le morphème grammatical de conjugaison à un autre verbe de façon plus ou moins réussie. C'est-à-dire que là, une fois qu'il a compris qu'il y a le verbe marcher, et puis la désinence A, qui permettent de faire une forme de passé simple, il va l'étendre à toutes les autres formes qui pourraient faire du passé simple, et là on va voir tous les il sorta, il parta, il prena, il prenda, etc. Tout ça qui est très rigolo. Et au fur et à mesure qu'il va essayer de lier ces différents lexèmes au morphème de conjugaison, l'adulte va reprendre et va lui permettre de créer les bons liens entre les bons morphèmes grammaticaux et les bons lexèmes. Et donc toute la structure du langage se fait comme ça, à partir d'un point qui va faire un lien, qui va faire un autre lien avec quelque chose. Et tant que le langage est en acquisition, ce système-là, il est mouvant. Et donc chaque nouvelle acquisition va toucher un tout petit peu plus celles qui sont déjà en place. Exactement comme une toile d'araignée. Si vous essayez de rajouter un nœud, et ben le reste va être plus ou moins touché, va être plus ou moins soit déséquilibré, donc les choses vont devoir se réajuster, soit justement vont se stabiliser et vont permettre la création de nœuds ultérieurs.
En lien justement avec tout ce que vous dites, et c'est très intéressant, est-ce que vous justement vous essayez d'inculquer à vos étudiants des concepts, des idées, des principes généraux sur le langage pour les aider en fait à être de meilleurs pédagogues justement? Est-ce qu'il y a, voilà, il y a une boîte à outils linguistique qui permet de comprendre le fonctionnement global du langage en tant que tel?
Je pense que les étudiants qui sortent de sciences du langage, en tout cas ceux qui vont vraiment pouvoir avoir une réflexion sur, enfin, qui s'investissent dans cette réflexion sur le langage et qui vont passer ensuite dans des cursus pour être professeurs des écoles, puisque c'est qu'une partie c'est de nos étudiants, hein, les autres vont choisir d'autres cursus. Mais je pense que ceux qui ont une réflexion avancée sur le langage et sur la licence qu'ils sont en train de passer, oui, ils vont avoir une espèce de boîte à outils où ils vont aborder du coup l'enfant selon des principes plus fins, en cherchant plus finement comment ce que l'enfant dit est à la fois en lien avec le monde de l'enfant, et pas, qui est complètement différent du monde d'un adulte, surtout dans des âges aussi petits que là où on parle. Un enfant en maternelle n'a pas toutes les expériences d'un enfant plus grand. Et donc comment le langage de l'enfant est lié au monde qu'il connaît et est lié aussi à ce qu'il est capable d'en comprendre de ce monde. Et ça, c'est vrai, donc là on parlait de syntaxe et de morphologie, mais c'est aussi vrai sur le plan lexical. Et sur le plan sémantique, un enfant ne peut pas comprendre aussi bien quelque chose qu'il n'a pas vu.
Alors justement, on est curieux de savoir quels sont vos prochains défis, quelles sont vos prochaines échéances, qu'est-ce que vous allez faire dans un futur plus ou moins proche?
J'ai plusieurs projets. Le premier, c'est quand même d'essayer de faire un livre. Donc, parce qu'au-delà de la surdité, je me suis beaucoup intéressée à différentes pathologies et à différentes... Donc au-delà de ce que j'ai fait pour ma thèse dans la surdité, je me suis intéressée à différentes pathologies, et c'est aussi le rôle de mon équipe. Au sein de Clestia, il y a plusieurs personnes qui travaillent sur l'acquisition du langage, et c'est régulièrement ils se sont régulièrement intéressés aux effets de certaines pathologies ou de certains phénomènes sur le langage de l'enfant. Et j'aimerais bien faire un projet de vulgarisation pour diffuser les résultats donc, de ces études, et en particulier aider les parents ou les professeurs qui sont face à ces enfants qui sont à risque de développer des difficultés de langage ou qui ont des difficultés de langage, pour leur apprendre à guider leur regard, à écouter l'enfant pour savoir si c'est des difficultés qui peuvent être pathologiques, qui vont gêner d'autres apprentissages, ou si c'est des difficultés qui sont juste transitoires, qui vont disparaître. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui beaucoup, c'est que par exemple, tous les enfants sourds ne vont pas développer de troubles du langage. Certains d'entre eux, oui, et on considère que la chance que ça soit vraiment un frein dans leur éducation, c'est un tiers des enfants. Donc c'est un risque quand même assez important. Et les parents qui ont des enfants qui parlent bien, a priori, ou qui ont pas de difficultés visibles, on va leur dire, oui, mais on va quand même surveiller. Et ce surveiller, les parents ne savent pas ce que c'est, ni les enseignants. Donc ils vont surveiller, parce que la plupart des parents, quand ils entendent ça, ça les rend un peu inquiets, mais ils ne savent pas ce qu'ils regardent. Et donc là, le but, ça serait justement d'offrir des clés et de guider le regard de ces adultes qui surveillent des enfants pour lesquels ils s'inquiètent.
Très bien, merci beaucoup. Alors on vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite, aussi bien de vos enseignements, de vos recherches et de cet éventuel livre. Je vous souhaite une très bonne continuation aussi, et puis je vous remercie beaucoup d'avoir répondu aux questions de Vox aujourd'hui. Merci Sarah, à bientôt, au revoir.
Au revoir, merci à vous.
À très travers ses recherches et ses enseignements, Sarah Thévenin nous aide à mieux comprendre ce qui se joue lorsqu'un enfant apprend à parler. Bien sûr, il y a d'abord la maîtrise phonétique, essentielle, la structuration cognitive, incontournable. Mais il est possible de mettre en évidence le lien si puissant qui unit l'enfant en situation d'apprentissage et l'adulte qui en prend soin. C'est au contact de ce regard bienveillant et pédagogique que se révèle toute la puissance de ce phénomène captivant. Merci à Sarah de nous l'avoir expliqué aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous noter sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Chaque soutien est grandement apprécié. Merci et à bientôt !